au quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, 3 décembre 2025. 3 décembre, c'est la Journée internationale des personnes handicapées et le thème de cette année, comprendre, agir, bâtir, trois mots qui traduisent l'essentiel, soit de mieux comprendre les différences et d'agir concrètement au quotidien pour bâtir une société où chaque personne peut participer pleinement. Bonjour équipe, salut Mathieu.
Bonjour Hélène, bonjour tout le monde.
Bonjour Serge Bradet.
Bonjour Hélène.
Vous êtes
bonjour.
Guéri? Vous aviez un rhume.
Oui, un rhume.
Oui, là, deuxième, ça va mieux, ça
un
va
deuxième,
bien.
Deux en un mois et demi.
Qu'est-ce qui arrive, Serge?
Je ne sais pas. Bon, les virus courent.
S'ennuyer de vous, puis on s'ennuyait du chocolat que vous nous apportez un mercredi
sur mais dites-le honnêtement, c'est plus du chocolat que vous en avez.
Non, peut-être Mathieu, mais pas moi. Et celle qui rit, c'est Isabelle Falardeau.
C'est moi, et moi, je peux dire tout à fait honnêtement que c'est pas pour votre chocolat que je m'ennuie de vous.
Oui, dis tout ça.
Ça, c'est gentil. Bon. Ça, c'est une gentille amie.
Oui, voilà. C'est parce qu'elle pense studio, Isabelle, non, c'est facile pour elle. Alors, aujourd'hui, on a la flûtiste Nadia Labrie qui a vraiment réalisé un projet impressionnant, un coffret, 3 albums. Flûte, passion, hommage à Claude Bowling. On va lui parler et on va écouter aussi des extraits de ce coffret. Également de la belle visite, François Bernier, que vous connaissez peut-être, qui a été invité à quelques reprises au micro de différentes émissions de Canal M. François Bernier est entrepreneur, conférencier, militant pour l'inclusion et les droits des personnes qui vivent en situation de handicap. Co-fondateur de 2 entreprises et qui raconte dans son récit biographique Handi, H-A-N-D-I, son histoire où on se rend compte qu'il vit à 110% malgré une amyotrophie spinale de type 2 qui menace sa survie. François Bernier sera en studio vers les 10h15. Aussi, on a nos chroniqueurs, vous les avez déjà entendus. Isabelle, qu'avez-vous de bon à nous proposer?
Ben, je ne vais pas vous parler de chocolat, mais je vais vous parler de ce qu'on mange dans le temps des fêtes, plus particulièrement dans l'assiette des fêtes de Looney. C'est une série d'entrevues que le site Mordu de Radio-Canada fait avec des personnalités culinaires. Et là, à l'approche des fêtes, c'est dans l'assiette des fêtes. Et Looney, c'est cette personnalité culinaire qui est végane, donc qui partage avec nous des recettes véganes et qui est aussi la créatrice du tofu magique. Donc, si jamais ça vous intéresse et qu'on a le temps, je pourrais vous en donner la recette.
Parfait, merci. Serge, des cercueils, quoi qu'il parle?
Ce sont des cercueils accrochés aux falaises et qui nous révèlent l'histoire d'un peuple disparu en Chine. C'est Isabelle qui m'a envoyé cet article-là et c'est vraiment super intéressant. Alors, je vais vous parler de ça. C'est des cercueils. Regardez la photo. Regardez, ils sont accrochés aux falaises.
Ah oui, vraiment?
Oui. Et ils sont là depuis longtemps. Et soit là ou dans des grottes qui sont dans la falaise.
Et on raconte cette histoire dans le magazine?
Dans le Géo, oui. Dans le Géo. Histoire Géo en français.
Oui, j'aime bien.
J'ai pris aussi d'autres articles pour compléter. Là,
parfait, derrière. Merci beaucoup. Et nous aurons aussi des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco-Presse. Caracol arrive avec une nouveauté, la voici.
Sens contraire, je suis anti-horaire. Une autre année dans la lune sur la terre, je me trouve, je me perds, mais c'est temporaire. Pas de place en terrasse, pas pour emporter. Il pleut tout l'été, mes plantes vont pousser. Ma voiture en panne, je vais devoir marcher. Je fais mes 10 000 pas, c'est bon pour ma santé. Regardez l'eau.
Candela, candelita buena, toma la suave que el flow a ti te llega. Porque el mundo nunca para de rodar. Ay, reggae, bom, 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 todo llega a su lugar. Reggae, bom, 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 bom. Ven y baila al ritmo del dembow. El reggae, bom, 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 bom. Ven y baila, baila, baila con tu flow.
Comme dit le titan, juste pour le citer. Pour chaque nuage, un reflet argenté. Je reçois les citrons de l'adversité. Et ma limonade est toujours sucrée. Yeah.
Chaque chose en son temps, il y avait sur cette chanson Ramon Chicharon, Olivia Rigeli et Caracol.
Alors, je vous le disais en entrée, c'est la Journée internationale des personnes handicapées sous le thème « Comprendre, agir, bâtir », un thème qu'a choisi de mettre de l'avant l'Office des personnes handicapées du Québec dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies. Pour souligner cette journée, l'Office met en valeur son auto-formation mieux accueillir les personnes handicapées, conçu d'abord pour les personnes qui travaillent avec le public. Et cette auto-formation s'avère utile finalement à toutes et à tous pour interagir aisément avec les personnes ayant différents types d'incapacités. L'auto-formation présente les meilleures pratiques pour comprendre les différents types d'incapacités, accueillir les personnes handicapées dans diverses situations, agir concrètement afin de réduire les obstacles rencontrés par les personnes handicapées. Des idées pour participer pour la Journée internationale des personnes handicapées aujourd'hui. Au travail, partagez l'auto-formation « Mieux accueillir les personnes handicapées » avec vos collègues. Vous allez trouver cette formation sur le site québec.ca. À l'école, visionnez une vidéo de sensibilisation à l'intimidation et animez une discussion avec vos élèves. À la garderie, on vous propose de faire une activité sur le thème des différences. Dans votre municipalité ou votre organisation, mettez en valeur les actions prévues dans votre plan d'action annuel à l'égard des personnes en situation de handicap. Comme citoyen ou citoyen, partagez les publications de l'Office sur les réseaux avec les mots clics comprendre, agir, bâtir et JIPH pour Journée internationale des personnes handicapées 2025. À la une de la presse plus, Parti libéral, la fracture se creuse. Pablo Rodriguez expulse la députée Marois Risky du caucus libéral 2 semaines après l'avoir suspendue. Mais les contre-coups de cette rupture se font de plus en plus sentir pour le chef du PLQ. Et Paul Journet écrit une chronique à ce sujet, le poker libéral. Et aujourd'hui, on a des résultats de sondage à la une du Journal de Montréal, sondage Léger, le journal, les libéraux dégringolent. Un autre coup dur pour Pablo. En crise, le PLQ chute. Alors, les intentions de vote, si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous l'intention de voter? Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon obtient 39 % du jamais vu pour le parti depuis 15 ans. Parti libéral du Québec, 21 % en chute de moins 6 par rapport au sondage du 12 novembre. Coalition Avenir Québec, la CAQ, 18 % un gain de plus 1 si on compare ce pourcentage au 12 novembre. Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, 13 % et Québec solidaire de Ruba Gazal, 8 % Niveau de confiance envers Pablo Rodriguez pour rebâtir le Parti libéral du Québec. Avez-vous confiance dans le leadership de Pablo Rodriguez pour rebâtir le Parti libéral du Québec? 52 % ont répondu non. 31 % ne sait pas ou refuse de répondre. 17 % oui. qui 17 % qui ont confiance. Niveau de confiance à l'égard de Marois Risky et de Pablo Rodriguez dans le conflit qui oppose actuellement M. Rodriguez et Mme Risky. Faites-vous davantage confiance à Marois Risky, 25 % Pablo Rodriguez, 13 % Aucun des deux, 38 % ne sait pas ou refuse de répondre à la question. 25 %, c'est dans le Journal de Montréal que vous obtiendrez tous les détails. Et finalement, à la une du Devoir, patrimoine, il y a 40 ans, le Vieux-Québec entrait au Panthéon de l'UNESCO. À ce jour, seul le Vieux-Lunenburg en Nouvelle-Écosse partage cette reconnaissance onusienne au Canada. Et Québec héberge cette reconnaissance onusienne au Canada, dis-je bien, et Québec héberge le siège social de l'Organisation des villes du patrimoine mondial. L'UNESCO reconnaissait il y a 40 ans la valeur universelle exceptionnelle de l'arrondissement historique du Vieux-Québec. Cette accolade onusienne à l'égard du berceau de l'Amérique française a non seulement fait briller aux yeux du monde la beauté de la capitale québécoise, mais aussi forgé son identité au fil du temps. Le 3 décembre 1985, Québec devenait la première ville d'Amérique du Nord de Mexico à recevoir la reconnaissance officielle de l'UNESCO. Québec, ville de 185 000 âmes il y a 40 ans, rejoignait alors un panthéon peuplé par les plus belles réalisations de l'humanité, les pyramides d'Égypte, le château de Versailles, le Mont-Saint-Michel, le centre historique de Florence, entre très nombreuses autres. Alors, ça pourrait vous faire un bel article à lire, très cher. Oui, Sébastien Tanguay, c'est dans le Devoir d'aujourd'hui. Très cher Serge. Une loi sur l'avortement, le rêve des anti-choix. Inscrire la liberté d'avorter dans la Constitution offrirait une cible à abattre, admettent ses opposants. Des médecins, eux, sont inquiets d'un possible recul dans l'accès à ce soin. Justement, dans une lettre ouverte au Devoir mercredi, c'est au tour de 458 signataires, dont 406 médecins, de demander au ministre québécois de la Justice, Simon-Jolin Barrette, de reculer. L'avortement est un soin médical, pas un débat juridique, soutiennent les signataires. Et on parle de politique québécoise. Risky expulsé du caucus libéral. Le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez, a expulsé officiellement la députée Marois Risky, mardi, du caucus libéral, tout en ouvrant la porte au retour de Geneviève Hinze comme chef de cabinet. Madame Risky a rompu le lien de confiance nécessaire pour avancer ensemble, a conclu M. Rodriguez. Il estime qu'après 2 semaines, ça suffit et qu'il lui a donné suffisamment de temps pour s'expliquer. Un air des fêtes, dans l'assiette des fêtes, justement, de Looney avec vous, Isabelle.
Oui, exactement. Donc, c'est sous la plume d'Émilie Lavallée. Il y a plusieurs portraits qui ont été faits cette saison et j'ai choisi celui de Looney. Si vous cherchez, Looney, c'est L-O-O-U-N-I-E. Moi, j'oublie toujours un U ou un O là, quand j'écris son prénom, mais son nom, en fait. C'est comme Prince, hein. Il y a juste un nom, là. Il n'y a pas de prénom et de nom de famille. Donc, c'est sous forme de questions-réponses. Alors, je vais y aller comme ça. Puis, si jamais il y a du temps, comme je vous disais, je pourrais partager avec vous là, une ou deux recettes suggérées par Louny. Donc, la première question qu'on lui a posée, quelles sont tes traditions culinaires du temps des fêtes? Et donc, là, elle dit, ce sont surtout des soupers. Avec mes amis, on a tendance à faire ça un peu plus tôt dans le mois de décembre, quand on a encore beaucoup d'énergie et qu'on est super motivé à faire les choses en grand. C'est vrai que peut-être que plus la fin du mois approche, moins on a une reste d'énergie pour faire ça. Et elle dit, on a parfois des soupers un peu plus chics ou des soirées thématiques. En famille, j'ai pas une énorme famille, alors on garde ça simple. On se réunit autour d'un repas, de l'apéro, peut-être des jeux en soirée, mais l'idée, c'est vraiment de passer du temps ensemble. Je ne sais pas si vous reconnaissez Hélène et Serge.
Absolument.
Et Mathieu là-dedans.
Moi, j'aime bien la phrase « gardons ça simple ».
Tout à fait. Puis l'important, c'est de passer du temps ensemble. Ça me rejoint, moi aussi, beaucoup. Deuxième question, est-ce qu'il y a des plats, des recettes en particulier que tu prépares chaque année pendant les fêtes? Et là, elle répond, il y a quelques années, j'aurais probablement répondu « mon tofu magique servi dans l'assiette magique festive qui est surmordue ».
Il y en a de la magie là-dedans?
Il y en a beaucoup, oui. mais plus récemment, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant le temps des fêtes, je vais voir des gens que j'ai pas vus depuis longtemps et j'ai envie d'apporter des recettes que j'ai testées ou que j'ai développées récemment. Ça peut aussi être mon coup de cœur des derniers mois ou de l'année. Pour moi, tant que c'est bon, que c'est gourmand et que je sais que les gens vont aimer ça, ça peut devenir ma recette spéciale des fêtes. Moi, la recette que je prépare toujours dans le temps des fêtes, c'est les petits fours de ma tante-Alèque. Ça, c'est une recette traditionnelle de ma grand-tante, Alec, et on mangeait ça seulement dans le temps des fêtes dans ma famille. Alors, ça va toujours demeurer magique et j'ai jamais mangé cette recette-là à un autre moment que dans le temps des fêtes.
C'est Isabelle qui parle, c'est pas Loni.
Oui, là, c'est Isabelle.
OK, merci.
Parenthèse. Vous, je sais pas si vous avez des recettes que, pour vous, c'est vraiment la recette du temps des fêtes.
Oh, il y en a plein, parce que j'ai une mère cuisinière assez exceptionnelle. Tarte au sucre, incontournable, ragoût de boulette, tourtière.
Les beignes?
Non, pas de beignes, par exemple. Des mocas.
Des mocas,
oui.
Oh,
les boules aux cerises, sucre à la crème.
Les boules aux cerises, ça m'intrigue.
Oui, ben si vous venez en studio, je vais peut-être vous en apporter.
Je me commets, j'ai donné des petits fours de ma tante Alec en échange.
OK, pourquoi pas?
Et donc, prochaine question, est-ce que tu as une recette de famille transmise de génération en génération pour le temps des fêtes? Donc là, on rejoint un peu ce qu'on a dit aussi, parce qu'on a des recettes qu'on prépare et des recettes qui nous sont transmises. C'est pas nécessairement toujours les mêmes. Et donc, elle répond, j'aurais tendance à dire les crottons. C'est pas quelque chose qu'on mange au souper de Noël, mais c'est plus quelque chose qui était dans le temps des fêtes. Ma mère se réunissait avec ses sœurs, elle faisait des grosses quantités de crottons à congeler, elle faisait des tourtières aussi. Et donc, pour Loni, les crottons, c'est un aliment très réconfortant et elle a justement véganisé cette recette.
OK, je serais curieuse parce que chez nous aussi, les crottons, là, c'est un incontournable.
Oui, j'avoue que nous aussi, on faisait ça en grande quantité.
Mais pas vegan. Pas vegan.
Ben pas végane. En fait, je suis pas allée voir la version de Loni, mais je suis pratiquement certaine qu'il y a quelque chose que je peux pas manger dedans, probablement des lentilles, parce que les meilleures recettes que j'ai trouvées de crottons, selon les gens qui les ont goûtées, évidemment, ce sont
puis vous êtes allergique.
De lentilles. Ben oui, voilà, heureusement. Et là, on arrive à une autre de mes allergies. Quelle est ta recette du temps des fêtes préférée? Le tofu magique festif, c'est une valeur sûre, surtout si le repas est traditionnel. Par exemple, si quelqu'un fait de la dinde avec des patates pilées, ben ça se prête parfaitement.
Il semble que tofu est magique et festif, ça va pas ensemble. Mais selon Loni,
ouais,
oui.
Je dirais voir, parce qu'en fait, je pense que ce qu'elle veut dire par festif, simplement parce que dans sa version de tofu magique, pour son assiette festive des fêtes, parce que je suis allée voir ça, évidemment, j'étais curieuse, et tout simplement, il est découpé en forme d'étoile.
Ah, d'accord. C'est la forme qui est magique.
C'est quand même festif.
Ou festive,
voilà. C'est une valeur sûre, donc, et ça, on peut remplacer parfaitement tout ce qu'on remplace dans l'assiette à ce moment-là, ça va être la dinde par le tofu. Elle dit, sinon, ça va varier chaque année. Il y a 2 ans, j'ai fait un monkey bread et j'ai apporté ça dans tous les parties des fêtes où je suis allée et ça a eu un énorme succès.
Un monkey bread?
Oui, je vais vous dire c'est quoi aussi. Elle dit, on lui en parle encore et chaque année, elle essaie de détrôner ce qu'elle a fait l'année d'avant. Donc, le monkey bread, moi aussi, j'étais curieuse. Alors, évidemment, comme à chaque fois que je suis curieuse de savoir c'est quoi un aliment, je tape dans mon navigateur monkey bread Ricardo. Et là... Parce que si Ricardo a fait une recette, je sais que ça va être la recette la plus simple. Et donc, en français, il appelle ça brioché au caramel. Et tout simplement, le monkey bread, c'est une recette, on fait une pâte à base de lait de beurre, qu'on appelle aussi du beurre, sucre, farine, levure, du beurre. On fait lever ça un petit peu, on mélange ça en petites boules. En fait, on fait des petites boules une fois que ça a levé. Puis, après ça, il y a comme une garniture. Dans le cas de Ricardo, c'est du beurre, cassonade, sucre, cannelle. Et on prend un moule. C'est ce qui fait que c'est un peu festif et à partager. un moule, vous avez le...
En forme de monkey?
Le gâteau des gens chez nous, un moule avec un trou dans le milieu.
OK,
là.
Je pensais que c'était un moule en forme de monkey.
C'est...
c'est quoi l'idée?
Non, en fait, apparemment, sur un endroit où j'ai trouvé sur, je sais pas si c'est dans le site de Ricardo, mais quelque part, j'ai trouvé qu'on appelait ça monkey bread parce que tous les invités vont manger avec leurs mains, un peu comme les singes mangeraient avec leurs doigts.
Oui, d'accord.
Mais en gros, c'est ça, on enrobe les petites boules de caramel avant de les mettre dans le moule, le moule qui fait comme une couronne, là. Et puis, on laisse se lever encore. Et une fois, ça donne un peu comme certaines brioches, là. Donc, c'est une belle couronne tout ensemble, mais on peut séparer facilement les petits morceaux puis les manger. Donc, c'est très festif.
On aimerait bien ça faire les monkeys la dernière semaine de Noël, la dernière monkey semaine bread. Avant de partir pour les congés de Noël.
J'avoue que j'ai été très inspirée. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner.
À suivre!
Ensuite, donc, c'est ça, le monkey bread, c'est une recette qui a vraiment eu beaucoup de succès. Puis vous irez voir pour vrai le monkey bread de Ricardo, là, les commentaires, c'est tout ça, c'est ceux qui en ont fait, ils ont vraiment impressionné leurs invités avec ça. Ensuite, selon toi, quelle est la recette qui incarne le plus l'esprit des fêtes? Et là, elle dit, j'en ai pas une en particulier, mais ce serait de faire des grosses fournées de biscuits et d'en préparer plusieurs variétés différentes. Moi, j'ai une amie qui fait ça chaque année, puis c'est tellement agréable. Ça, c'est Isabelle qui parle. Et quand on était dans le premier confinement de la COVID, dans le temps des fêtes, elle nous a fait des biscuits. Elle est venue nous les livrer à chaque ami dans une
fille. Oh, quelle généreuse amie!
Ça m'a tellement touchée. Caroline, je t'aime.
Dans une belle boîte?
Ben oui, c'était dans une belle boîte.
Ouais, c'est un super cadeau à offrir et à recevoir aussi.
Vraiment. Et donc, c'est vrai que ça représente pour moi aussi l'esprit des fêtes. Donc, elle dit, c'est pas quelque chose que je fais durant l'année. J'aime ça cuisiner des biscuits, mais c'est quand même assez occasionnel. Et je trouve que c'est très aligné sur la saison. On est amené à ralentir en décembre. On fait un peu de moins, on passe un peu de moins de temps dehors et on peut prendre le temps de cuisiner des biscuits, faire des biscuits qu'on va offrir ou qu'on va partager. Surtout s'ils sont gourmands, c'est vraiment ce qui incarne l'esprit des fêtes. Puis en plus, on peut les décorer hein, avec des petites couleurs des fêtes. C'est ma parenthèse encore ça. Je vais aller rapidement là, parce que je ne veux pas dépasser. As-tu un souvenir d'enfance ou une anecdote en lien avec le temps des fêtes? Et là, Louis dit, j'ai un souvenir très clair des bûches de Noël. Donc même dans ses souvenirs, on ne lui demande pas que ça ait un lien avec l'alimentation, mais ça a un lien avec la bouffe. Donc des bûches de Noël bon marché d'épicerie qu'on pouvait acheter.
La fameuse bûche Vachon?
Voilà, c'est ça. Je dis bon marché dans le sens que c'était pas des bûches qui venaient d'un pâtissier réputé. Il y avait une petite hache en plastique rouge sur la bûche et aussi une branche de sapinage en plastique. Je me souviens que mes cousins, mes cousines et moi, on se battait pour savoir qui allait pouvoir garder la petite hache.
Oh oui.
Et elle dit, j'ai un souvenir très vif de ça et je pense que ça n'existe plus aujourd'hui ou en tout cas, il n'y a pas de version végane. Donc, c'est pas... quelque chose qu'elle a pu reproduire dans les dernières années. Est-ce que tes traditions de Noël ont évolué au fil des ans? Si oui, comment? Et là, elle dit oui, pour plusieurs raisons. Pour beaucoup de gens, après la pandémie, il y a un tas de choses qui ont changé. Hein. On s'est mis à repenser l'idée d'avoir des tonnes et des tonnes de parties des fêtes, un à la suite de l'autre, et de s'épuiser. C'est vrai que ça nous a permis, en étant obligés de ne pas se voir, de se rendre compte qu'on n'était pas obligés d'autant se voir. Ça, c'est moi là, qui fais le commentaire.
Ça prend des pauses, des vraies pauses.
Voilà, exactement. Et Louis dit, je pense que c'est un peu plus relax maintenant. On est plus dans l'idée d'en faire moins, mais de passer du temps de qualité avec les gens qu'on a envie de voir.
Au lieu de bailler toute la soirée pendant le souper.
Exact. Et elle dit, quand je suis devenue végane il y a 14 ans, c'est sûr que ça a changé beaucoup de choses. Au début, c'était plus un défi pour moi de ne pas m'exclure des célébrations, de m'assurer que je n'ai pas apporté mon lunch et le manger dans un coin. J'avais pas un aussi grand répertoire de recettes qu'aujourd'hui et il n'y avait pas autant de produits végétaliens en épicerie. C'est vrai que depuis 14 ans, ça a explosé l'offre de produits végétaliens. Et ça, ben, ça amène à la question, comment vis-tu les repas des fêtes en tant que personne végane, surtout quand les autres ne le sont pas? Et là, il dit, je suis vraiment privilégiée parce que mon entourage est super ouvert et très inclusif. J'ai des amis qui sont véganes, alors avec eux, c'est facile. Et mes amis qui sont pas véganes sont très végécurieux, peut-être même flexitariens. Donc, c'est pas complexe d'avoir des options véganes ou de penser que je peux apporter quelque chose de végane pour compléter. Et elle dit, ma famille aussi est très ouverte. Souvent, ce qu'on va faire, c'est pas un repas 100% végane, mais par exemple, tous les accompagnements sont véganes. Et s'il y a une option de viande, il va y avoir une contrepartie végane. Et pas juste pour elle, mais on fait une grosse quantité comme la viande. Donc, tout le monde peut prendre soit la viande, soit la version végane ou les deux. Même dans les parties de bureau, elle a remarqué que c'est de plus en plus facile d'avoir des options véganes et sans alcool. Et c'est vraiment chouette que ce soit de plus en plus inclusif.
Rappelez-nous, Isabelle, c'est quoi la différence entre végane et végétarien?
Végétarien, on va manger des produits animaux, mais pas des animaux. On va manger des œufs et des produits laitiers, par exemple. Et les végétaliens, c'est tout produit animal qui est exclu, donc incluant les œufs et les produits laitiers. Ça, c'est un peu...
La différence fondamentale.
C'est la grosse différence,
ouais. Ouais. Merci.
Et la dernière question, c'est « Penses-tu que Noël peut se réinventer sur le plan culinaire tout en respectant les traditions? » Et elle dit « Oui, j'aime beaucoup justement me donner le défi de véganiser des classiques. » On se rend compte aussi que ce qui est important, ce n'est pas nécessairement l'ingrédient qui est dans une recette. C'est souvent le contexte dans lequel on aime cuisiner la recette, avec qui on va partager le plat, comment on va le servir, ce qu'on veut souligner avec un repas comme ça, etc. Je pense que c'est tout à fait possible d'adapter les ingrédients et les techniques tout en honorant les traditions.
La chaleur humaine, l'amour, on y revient toujours. Et les bons petits plats. Oui. Et le luxe du temps, hein, parce que pour confectionner tout ça, il faut avoir un peu de moyens, puis aussi, il faut avoir du temps.
Et les belles chansons de Noël. J'ai pas le temps de partager la recette avec vous, mais si vous allez voir le Monkey Bread de vegan, il est sur le site Mordu. Et il y a l'assiette festive des fêtes, assiette magique festive, qui contient plein de recettes là, que vous allez pouvoir faire. Que vous soyez vegan ou non, c'est vraiment très intéressant.
Super. Merci, Isabelle. Puis, Serge, vous avez ajouté...
Et les chansons de Noël.
Évidemment.
Oui. Mais là-dessus, c'est vrai.
On vous dit merci, puis vous nous quittez. Hein, vous devez partir.
Oui, je vais vous quitter, mais je vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.
Okay, bye.
Bonne journée.
Noël à gogo. Serge Bradet est toujours avec nous et il s'en vient nous parler de cercueils accrochés aux falaises en Chine. Tout ça est bien mystérieux. Après la pause.
Vous pouvez aller au quotidien avec Hélène Denis.
Et Serge Bradet en studio. Serge, un texte qui a rapport avec des cercueils et ça se déroule en Chine.
Absolument.
Vous nous intriguez.
Oui, des cercueils accrochés aux falaises en Chine. Un article de Mathilde Rago, journaliste rédactrice histoire à Géo français.
Une journaliste qui s'appelle Rago, là.
Oui. on l'invente pas, hein.
Ouais.
Alors, c'est un article qui date du 26 novembre 2025, donc c'est tout récent. Alors, pendant 3000 ans, les cercueils suspendus accrochés aux falaises chinoises ont gardé leur secret. Une étude récente révèle désormais leur origine côtière, retrace les migrations des peuples anciens et met en lumière un lien inattendu avec les habitants modernes du Yunnan. Pendant des siècles, les falaises abruptes des régions du sud de la Chine et du bassin du fleuve Yangtze ont abrité un mystère. D'importants cercueils en bois, Xuanguang, perchés à des dizaines de mètres du sol, suspendus dans le vide ou nichés dans des cavités rocheuses. Alors, qui étaient les peuples capables d'un tel exploit et pourquoi défiaient-ils ainsi la gravité pour honorer leur mort, on se demande. Dans Nature Communication, le 20 novembre 2025, une équipe internationale de chercheurs publie l'étude la plus complète jamais réalisée sur ce rituel spectaculaire et fait le lien entre ces bâtisseurs et leurs derniers descendants. Alors, pour retracer l'histoire de cette coutume funéraire antique, le professeur Zhang Xiuming de l'Institut de zoologie de Kunming, Académie chinoise des sciences, en collaboration avec d'autres confrères, a séquencé l'ADN de 11 individus issus de 4 sites de cercueils suspendus en Chine. Ensuite, l'ADN de 4 individus issus de cercueils bûches, qu'on appelle bûches, en Thaïlande. Ensuite, 30 génomes complets des Bo, une ethnie ancienne du sud-ouest de la Chine. Et ces derniers, les Bo, dont les membres ont été massacrés ou assimilés de force par les Han durant la dynastie Ming.
Les Bo, vous écrivez ça comment?
Bo.
Ah,
tout
à fait.
Qui ont été massacrés par les, durant la dynastie Ming au 15e siècle, ce qui a conduit à l'extinction des Bo en tant que groupe distinct. Et on laissait des traces culturelles importantes, perceptibles chez les peuples actuels des provinces chinoises du Yunnan, Guizhou et Sichuan. Plus surprenant encore, les ancêtres des personnes retournées dans des cercueils bûches thaïlandais partagent ainsi une partie de leur génome avec les praticiens chinois. Une découverte que soutient, pour la première fois, l'hypothèse d'une origine commune et d'un réseau culturel plus vaste s'étendant entre le sud de la Chine et l'Asie du Sud-Est, écrivent les auteurs de l'étude dans un communiqué. Toutefois, les disparités régionales dans les ascendances génétiques mettent en lumière des processus démographiques complexes, incluant un métissage localisé avec des groupes apparentés au Wabinhain, culture préhistorique de chasseurs-cueilleurs de l'Asie du Sud-Est, en Thaïlande. Et ça se promenait à l'époque, hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui, les mouvements de population. Au cœur des travaux, deux individus âgés d'environ 1200 ans, identifiés sur le même site de Washi, intriguent également. Pour cause, ils ne ressemblent génétiquement à aucun autre membre des communautés de cercueils suspendus. L'un provient clairement de populations agricoles du fleuve jaune, le Wanghe, au nord. L'autre porte une ascendance typique du plateau mongol. Et ces profils témoignent de contacts à longue distance, probablement liés au vaste mouvement de population sous la dynastie des Tang, du 7e au 10e siècle. Loin d'être isolés, les groupes étaient donc ouverts, intégrant parfois des individus de régions très éloignées. L'un des résultats les plus marquants de l'étude, note ses auteurs, concerne les Bo d'aujourd'hui. S'ils sont décrits comme un peuple disparu depuis la dynastie Ming, leurs descendants vivent encore dans quelques villages du Yunnan. C'est ce que confirment les analyses ADN, relevant le degré considérable d'héritage génétique partagé avec les anciennes communautés associées aux cercueils suspendus. Maintenant, la question qu'on se pose, comment ils faisaient pour installer ces cercueils-là? Alors, même après des millénaires, ces cercueils suspendus continuent de donner du fil à retordre aux experts modernes. Car les capacités et les techniques des peuples anciens ne semblent pas suffisamment développées pour accomplir une tâche aussi complexe. Comment auraient-ils pu transporter des cercueils pesant des centaines de kilos le long de cette falaise abrupte sans laisser la moindre trace?
Grande question, en effet.
Ben oui. Alors, les cercueils sont placés sur des pieux en bois, enfoncés dans les falaises, comme vous avez vu sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Dans certains endroits, ils sont même déposés dans des grottes naturelles, à plusieurs dizaines de mètres du sol. Il fallait quand même les monter, là. Parmi les vestiges subsistants, la région du mont Longwu, province de Jiangxi, en Chine, est célèbre pour une série de cercueils suspendus alignés le long d'une falaise escarpée, ce qu'on a vu dans l'image, et en contrebas roule une large rivière, créant un paysage à la fois majestueux et mystérieux. Donc, s'il y a une rivière, là, on ne peut pas installer de treuil, d'appareil, oui. C'est mystérieux.
On est en quelle année, là?
Dans les 1000 avant Jésus-Christ, là, très très loin. Ouais. Cette scène suscite des interrogations quant à la manière dont les anciens transportaient et entreposaient ces sarcophages. Selon les experts, chaque sarcophage peut peser jusqu'à 300 kg. Il n'est pas léger, hein? Et ils sont restés intacts pendant des millénaires. Encore plus surprenant, pardonnez-moi. Malgré de nombreuses études et enquêtes, les questions relatives à la technique employée et à son mode de réalisation demeurent sans réponse satisfaisante.
Même en 2025.
On a des conjonctures, on pense que, des suppositions. Puis, en 1989, il y a un agriculteur installé depuis longtemps dans la région du mont Longwu, qui prétendait connaître le secret de cette mystérieuse coutume funéraire. Il décrivait un outil ressemblant à une poulie que les anciens auraient utilisé pour hisser les cercueils le long de la falaise. Des experts ont par la suite testé cette théorie et sont parvenus à déplacer des objets lourds. Alors, Cependant, le plus troublant est qu'aucune trace de ce système de poulies ni aucun outil n'a été retrouvé sur la falaise après des milliers d'années. Étonnamment, non seulement aucune trace d'outil n'a été retrouvée, mais aucun témoignage historique n'atteste non plus l'utilisation de cette méthode. Alors, on est dans les limbes. Hein?
Oui.
À cette époque, la technologie n'était pas suffisamment avancée pour créer des cordes ou des dispositifs capables de supporter un objet aussi lourd. Et bien que l'hypothèse de la poulie explique en partie le déplacement du cercueil, de nombreux points importants demeurent obscurs. Le transport de cercueils suspendus à des falaises de près de 100 mètres de haut demeure un défi scientifique. Il ne faut pas l'oublier. Les archéologues ont exploré de nombreuses pistes, mais aucune n'a pleinement convaincu. Les anciens employaient-ils une technique encore inconnue de la science moderne? Ou s'agit-il simplement d'un de ces mystères que l'histoire laissera à jamais en suspens?
Oui, il y a le mystère des pyramides et maintenant...
Absolument,
le mystère des cercueils en Chine.
Bien que la technique utilisée pour transporter les cercueils le long de la falaise demeure un mystère, les recherches se poursuivent. Un jour, grâce au progrès de la science et de la technologie moderne, nous percerons peut-être ce mystère millénaire. Ces cercueils suspendus constituent non seulement un vestige archéologique exceptionnel, mais aussi un témoignage de la créativité et du savoir-faire des peuples anciens, suscitant en nous une curiosité qu'on aimerait bien satisfaire.
Est-ce que c'est une attraction touristique? On n'en parle pas dans l'article.
Ça doit. Ma chouette en Chine, on ne nous a pas montré ça, mais bon, c'est tellement grand la Chine que l'été...
C'est assez exceptionnel.
Oui, c'est exceptionnel. J'ai pas vu ça. On a vu des tombeaux d'empereurs, là.
Mais pas de cercueil suspendu.
Avec les guerriers. Non, on n'a pas vu ça.
Alors, rappelez-nous la source.
Oui, c'était la plus grande partie, c'était de Géo France, là, de Mathilde Rago. Mais la partie qui explique là, comment on aurait construit ça, les expositions, c'est dans une revue vietnamienne traduite en français. J'ai pas de nom d'auteur, le nom de l'auteur était en vietnamien. Je me suis pas risqué à le traduire.
D'accord. Bien, on ne traduit pas nécessairement les noms. Non. Et puis, je comprends, c'était la graphie là, qui était différente.
C'est-à-dire, on ne peut pas... quand tu veux lire un nom vietnamien, là... J'ai un ami, moi, qui est vietnamien, puis...
Moi aussi, j'en ai un, il s'appelle Van.
Ben, c'est
facile
ça.
Facile à dire.
Oui, oui. Non, mais quand ils l'écrivent, là, c'est pas la même chose, c'est ça. Ouais,
c'est ça.
Quand tu t'arraches les cheveux, là.
Avez-vous une brève?
Une brève, oui!
Avant de se laisser.
On veut juste des cute d'enfants.
Oui, des cute d'enfants? Ouais. Des mots d'enfants, vous
voulez
dire?
Un groupe de professionnels a posé la question suivante à un groupe d'enfants de 4 à 8 ans. Que signifie l'amour?
Oh.
Les réponses qu'ils ont obtenues ont été plus vastes et plus profondes que ce que tout le monde aurait pu imaginer. Quand ma grand-mère a eu de l'arthrite, elle ne pouvait plus se pencher pour peindre ses ongles de pied. Alors mon grand-père le fait tout le temps pour elle, même quand ses mains lui font mal à cause de l'arthrite.
Mm.
C'est ça l'amour.
Quelle parole sage quand même pour un enfant. Hein?
Oui.
Auriez-vous
le temps pour une autre?
C'est vrai.
Auriez-vous le temps pour une autre?
Moi, je suis d'accord que c'est le vrai amour. Hein, Serge?
Oui. Ouais. Pour une autre encore?
Une autre.
Quand quelqu'un vous aime, la façon dont il prononce votre nom est différente. Vous savez juste que votre nom est en sécurité dans sa bouche. Oh, c'est cute!
C'est inventé par des adultes.
Oui.
Il dit oui.
L'amour! L'amour, c'est quand une fille met du parfum et un garçon de l'eau de Cologne pour le rasage et qu'ils sortent se sentir.
Ouais. Sentez-vous
ouais.
pour vous sentir bien,
mm-hmm.
vous sentir mieux.
Ouais,
mais il faut faire attention à ce qu'on se met comme odeur, mm-hmm. hein, parce qu'il y a des eaux de Cologne.
Oh, il y en a que c'est repoussant.
Confuit.
Là. Oui.
Bon, bien là-dessus, merci de votre présence. Et puis, vous allez revenir la semaine prochaine?
Absolument que je serai là. Je manque ça pour tout l'autre
oui.
monde. Je manque pas ça pour tout l'autre monde.
OK. À bientôt.
Bye.
Probably just like you said, it isn't much worth dying. dying over, the end's not here, but it is closer now. Cause I don't believe in angels. Well, not that way, but I don't have an angle. At least not today. No sacred book is gonna save me. The spirit's real, but it's not holy. Guess I'll see you when I'll see you. But it's not all over, baby blue. Now I know it's just another day, but please, I won't live it anyway. And I don't even mean that kind of magic. There is nothing mystical about it. But I'm afraid if you did not get it then, there's no point in trying again right now. Cause I don't believe in angels. Well, not that way, and I don't have an angle. At least not today. No sacred book is gonna save me. The spirit's real, but it's not holy. Now I'm not quite sure what else to say. Merry Christmas anyway. Now I know you did not come here for a blessing. Sometimes I wonder if you're even here at all. But come on, don't you know this is season, the most wonderful season of all. I'm not waiting on no miracles. The bells will ring, the snow will fall. But it's gotten old talking about it. If you want a life, you got to live it now. Cause I don't believe no angels will ever come this way. But I don't have an answer, especially not today. No sacred book is gonna sway me. I might be lost, but I'm not crazy. Now I'm not quite sure what else to do. A very Merry Christmas to you.
La chanson Holy d'Eliott Maginot.
Ce matin, je reçois François Bernier, entrepreneur, conférencier, militant pour l'inclusion et les droits des personnes vivant en situation de handicap, cofondateur de deux entreprises. Il vient nous parler de son récit biographique intitulé Handi, H-A-N-D-I, publié chez KO Éditions. Bonjour François.
Bonjour.
Grosse journée pour vous.
Oui, quand même.
En pleine tournée de promotion.
Oui, j'arrive de... De Pénélope McQuaid.
Oui, 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 ça a bien été avec Pénélope.
Ça a bien été.
Oui, bien tant mieux. Alors, François, dites-nous, comment est née la création de ce livre?
Écoute, ça fait plusieurs années que je voulais écrire un livre, puis là, j'ai décidé le 31 décembre 2022.
C'est bien précis?
Que c'était ma résolution de l'année.
OK.
Puis là, j'ai commencé à chercher quelqu'un, parce que... C'était trop long pour moi à écrire. Mm-hmm. Puis je suis tombé sur Sophie Marcotte, qui a fait un travail incroyable.
Alors oui, sur le livre, on peut lire François Bernier, raconté par Sophie Marcotte. Alors c'est Sophie qui a rédigé le texte à partir de
d'entrevues. Oui, donc on a passé plusieurs mois d'entrevues, deux fois par semaine, que je racontais ma vie. Puis elle a creusé.
À partir de 2023, après avoir pris la résolution à la fin 2022?
Oui, ça a pris, je dirais, 6 mois d'entrevue. Puis après ça, beaucoup de back and forth. Elle a écrit. Après ça, je me dis quelques trucs. Puis après ça, c'est le processus avec la maison d'édition.
Oui. Ça, est-ce que ça a été un processus compliqué?
De trouver, surprenamment, non. J'avais même le choix entre quelques maisons, puis j'ai choisi KO Édition.
KO Édition. Et il faut dire que Sophie Marcotte est une écrivaine de grand talent, qui est connue aussi, qui a écrit les romans Température, pièce et La mer intérieure. Et ce livre-là, La mer intérieure, a été en lice pour le prix des libraires du Québec en 2023. Comment vous l'avez rencontré?
que j'ai mis une annonce sur Pige Québec. Puis elle a vu ça, puis elle a appliqué. On a fait une entrevue, puis tout de suite, je sentais que...
Ça a cliqué.
Oui,
oui, ouais, c'était elle.
Ouais.
Et dans Andy, vous abordez des sujets quand même... comment dire, tabou, on peut dire ça, hein, la sexualité, l'intimité, le désir. Pourquoi c'est important pour vous de parler de ces sujets-là, François?
Parce que c'est très tabou.
Oui, justement.
Puis je pense que c'est très important d'en parler pour que les gens, ça soit un handicap, qui ont malheureusement parfois aucune vie sexuelle.
On pense que les personnes en situation de handicap n'ont pas de désir ou
exact.
La sexualité, c'est pas pour eux. Et ouais. c'est pas vrai du tout.
Ben non, tout le monde en a. Donc, c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir vivre, mais beaucoup n'osent pas. Parce que justement, c'est tabou et tout.
Et pas seulement que la sexualité et l'amour aussi.
Ouais. Ouais. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de rencontrer. Surtout quand tu as un handicap lourd. Puis, tu sais, je pense que tout le monde a droit à vivre l'amour et puis à rencontrer quelqu'un.
Et dans vous vous livrez, hein, vous vous mettez à nu, c'est le cas de le dire, dans Andy, parce que vous racontez vos expériences avec des travailleuses du sexe, c'est comme ça qu'on peut les appeler?
Oui, donc, étant donné que je ne rencontrais pas, j'ai décidé de décéder sur un coup de tête au début. Puis je raconte dans le livre. En fait, finalement, j'ai rencontré des femmes très normales. Ce n'est pas du tout l'image que plusieurs ont, les préjugés et tout.
Ouais, ouais.
C'est des étudiantes, parfois très intelligentes. C'est vraiment
Vous êtes même... vous avez vécu une histoire d'amour avec une de...
Oui, j'ai même rencontré
Léa.
Léa, dans le livre, qui est devenue ma copine. Au fil du temps.
Oui, oui. Mais ce n'est plus votre copine maintenant. Et le livre met aussi en lumière la naissance de votre engagement militant. Ça a été quoi le déclic qui vous a poussé à défendre publiquement le droit d'exister pleinement?
En fait, j'ai fait de la rencontre d'un coach de développement personnel qui s'appelle Gaëtan. Depuis, il a changé ma vie.
Ah oui?
Il m'a fait comprendre que j'avais la chance de pouvoir influencer, puis ma voix vraiment pouvait avoir le pouvoir de inspirer les gens, de changer les choses. Puis au fil du temps après ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes sans un handicap, que leur qualité de vie est vraiment terrible, puis ça me touche beaucoup, puis je veux vraiment aider la communauté à vivre une vie normale, puis aussi à triper.
Une belle vie.
Ben oui, comme moi.
Vous considérez que vous avez une belle vie? Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète?
Ben oui, allez-y.
Vous avez quel âge?
J'ai 36.
36 ans. Et vous racontez, le livre commence, c'est votre naissance, la réaction de vos parents, parce qu'au début, on ne sait pas trop ce que vous avez. Là, on vous trouve mou. Vous parlez de Gaëtan, vos parents aussi ont eu de l'influence et vous ont fait accepter votre handicap?
Oui, ça a été un très long processus. C'est autour de 25 ans que j'ai accepté mon handicap. Puis, il faut le voir plus comme un atout. Ça fait partie de moi.
Mm-hmm.
Ça m'a donné plein de qualités que j'ai aujourd'hui.
Comme lesquels?
Comme la résilience. Comme, tu sais, je suis toujours à la recherche de solutions dans la vie, au travail. Puis, tu sais, ça, quelque chose fait partie de moi. Puis, l'accepter, c'est extrêmement important, sinon, tu es tout le temps frustré.
Oui.
Puis, ça devient très lourd juste à vivre.
Alors, les frustrations, ça fait moins partie de votre vie depuis que vous avez accepté votre handicap?
Bien, pas pour moi, mais j'ai des frustrations pour la communauté. Parce que je trouve qu'il manque tellement de choses dans la société, ne serait-ce que pour donner des outils à vivre une vie inclus dans la société.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez le sentiment d'être exclu souvent?
Ouais. Encore aujourd'hui, que les gens ne sont pas habitués de côtoyer les personnes en situation de handicap. Évidemment, l'accessibilité à Montréal, c'est un fiasco.
Ouais, ah donc, oui, ah
oui. Il y a à peu près 90% des commerces qui ne sont pas accessibles.
90%?
Oui,
je pensais qu'on avait fait quand même du progrès depuis quelques années.
Très, très, très lent. Oui, c'est inacceptable.
Parlez-nous des deux entreprises que vous avez fondées.
Donc, j'ai Agence Bloom. En fait, on aide les entrepreneurs avec leur personal branding pour vraiment se faire connaître, de se mettre de l'avant, puis aller chercher des conférences, des podcasts, etc.
Mm-hmm.
J'ai Horizon B2B, une entreprise pour aider des entreprises avec le développement des affaires sur LinkedIn.
Vous êtes un grand voyageur aussi, François Bernier.
Ouais.
Vous avez réalisé des défis sportifs impressionnants, 12 heures de roulage au Stade olympique, Montréal-New York en 10 jours, plus récemment une traversée de la France, du nord au sud.
Ouais.
C'est vrai que vous avez eu un accident la première journée?
Oui, ça n'a pas bien commencé.
Non, mais ça a bien fini. Vous avez...
on l'a eu.
Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ces exploits impressionnants?
Entre autres, pour amasser des fonds. Cette année, c'était pour Défis sans limite. Mais aussi pour démontrer que tu peux briser tes barrières. Moi, je pensais jamais, il y a 10 ans, que j'aurais pu faire ça. Mais finalement, je l'ai fait. Puis j'ai trippé en le faisant. Je sais pas si je le referais parce que...
Ah là, vous êtes vieux, 36 ans quand même.
C'est ça. Mais c'était toute une aventure.
Oui, hein? Quel est votre handicap? C'est...
amyotrophie spinale,
ouais,
de type 2. Donc, en gros, mes muscles ne se développent pas. Donc, je ne peux pas bouger très peu. Simplement mes bras.
Mm-hmm.
Et puis, je ne suis pas autonome pour rien.
Vous n'êtes pas autonome pour rien. Est-ce que vous avez une belle équipe autour de vous, des alliés qui vous aident dans tout? Et vous dites que vous aimeriez, à un moment donné dans le livre, vous parlez du film Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy, qui est un film tellement extraordinaire. Moi, je le regarde, je pense, à chaque année. Et vous dites, oh, j'aimerais ça avoir mon Driss à moi, le personnage d'Omar Sy. Ouais. Mais est-ce que vous l'avez trouvé, votre Driss?
Ben oui, celui avec qui...
Gaëtan?
Non, Gaëtan, Gaëtan c'est... plus mon coach.
Oui.
J'ai Jean-Philippe qui fait plein de folies avec moi, dont la traversée de la France, avec qui on fait des voyages, etc. Mais oui, c'est vraiment important d'avoir un bon entourage. Autant d'être soignant, mais d'amis aussi.
Oui, et un entourage aussi qui ne vous fait pas sentir coupable ou lourd, parce qu'à un moment donné, vous dites, sortir avec mes amis au bar, si j'ai envie de rester très tard dans la nuit.
Exact.
Vous voulez vous sentir libre et c'est pas nécessairement toujours simple.
Non, ça peut être très compliqué de penser à tous les besoins que tes amis doivent t'aider, en fait, pour tout. Là.
Oui. Vous les remerciez d'ailleurs, vos amis.
Hein? Oui, absolument.
Oui. Et vous avez aussi... on parle de la Journée internationale des personnes handicapées. C'est le 3 décembre. Quel genre de regard vous posez sur cette journée?
Bien, je pense que c'est une journée que c'est important de parler des enjeux, de parler à quel point il y a tellement de support que les personnes ont besoin,
mm-hmm,
qu'on n'a pas actuellement comme les services d'accompagnement ou juste les soins à domicile sont très durs à avoir. De l'accessibilité, évidemment. Il y a tellement de choses qu'il faut... changer.
Avez-vous déjà pensé de faire de la politique?
Bien, moi, je crois que c'est plus en faisant, en étant militant, qu'on peut changer les choses plutôt qu'en politique.
OK.
C'est ma façon de voir les choses.
Et votre livre est en vente depuis fin octobre. Hein? Ça a été lancé à la fin octobre. Qu'est-ce que vous souhaitez que les lecteurs, les lectrices retiennent après avoir refermé Andy?
De voir c'est quoi la situation, c'est quoi la vie quand t'es en handicap.
Mm-hmm.
Quand t'es en handicap, juste de voir c'est que tu peux toujours avoir une vie incroyable. Même si tu as un handicap, il faut juste avoir le bon mindset, mais les outils aussi,
ouais,
que certains n'ont pas, que le gouvernement doit offrir.
Et c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes en situation de handicap qui ont cette force mentale-là et aussi cette personnalité militante. Alors, des gens comme vous, je sais que quelquefois, il y a des personnes en situation de handicap qui n'aiment pas se faire dire qu'elles sont inspirantes ou courageuses. Est-ce que je peux vous dire ça quand même?
Oui, mais c'est parfois le mot inspirant qui est utilisé un peu trop souvent.
Oui, ouais, c'est galvaudé. Il faut que ça vienne du cœur. Mais moi, je vous dis
exact.
Que ça vient de mon cœur.
Ben, je vous crois.
Ça a été une belle rencontre, puis j'espère que vous allez revenir. Vous êtes habitué quand même des studios de Canal M.
Oui, ça fait 3-4 fois.
3-4 fois. Bien, en 2026, on va augmenter ça, parce que vous êtes une personne importante et très intéressante à côtoyer. Andy, c'est votre livre, François Bernier, aux éditions K.O. Éditions. Merci.
Bien, merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Baroque and Blue, c'est rare qu'on fait jouer des chansons ou des pièces instrumentales, même des chansons qui durent plus de 6 minutes, mais là, on ne pouvait pas arrêter, c'est trop beau. Une pièce tirée du coffret Flûte Passion, hommage à Claude Bowling, avec la flûtiste québécoise Nadia Labrie, qui est au bout du fil. Bonjour Nadia.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là. Vous avez une voix flûtée aussi?
Ah oui, ben, un petit peu une voix grippée.
Oh non, ben oui, parce que vous devez venir, vous deviez venir en studio et puis là, bien, vous avez eu la sagesse de rester chez vous, mais ça nous fait bien plaisir de vous parler pour présenter ce nouveau coffret qui rend hommage à Claude Bowling. Pour ceux et celles qui n'auraient jamais entendu parler de Claude Bowling, qui est-il?
Ben, Claude Bowling, c'est un compositeur français un jazzman incroyable qui a composé beaucoup de musique de film et qui, dans les années 70, à la demande de Jean-Pierre Rampal, qui est un grand flûtiste, qui est probablement le flûtiste le plus connu, Jean-Pierre, à la demande de Jean-Pierre Rampal, qui a composé justement ces œuvres-là, ces œuvres donc pour flûte traversière et trio jazz. Et puis, suite à la première pièce dont vous avez entendu. Au fait, c'est devenu un peu le père du crossover, qu'on appelle la crossover music, donc parce qu'il a justement fait le mariage entre la musique classique et le jazz. Et puis, donc, c'est un compositeur que j'apprécie beaucoup, puis je lui rends hommage avec en enregistrant de son intégrale, l'intégrale finalement des œuvres avec flûte. Donc, il a composé tout pour Jean-Pierre Rampal, et puis j'ai décidé, 50 ans plus tard, de reprendre cette belle musique, afin de la faire découvrir à un plus grand nombre de personnes possible.
Tout ça, c'est de la faute de l'oncle Martin Pinchot?
C'est exactement ça. Oui, oui, c'est ça. C'est l'oncle de mon mari qui à chaque fois qu'on se rencontrait, finalement, dans les réunions familiales, me chantait toujours justement cette pièce Baroque and Blue. Et à chaque fois, il me disait, bon, Nadia, ça serait tellement beau si tu enregistrais ces pièces-là. Donc, j'ai craqué et puis j'ai écouté cette musique-là en boucle et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est une musique mais absolument fabuleuse, sublime, qui me transporte. Puis j'espère que ça va faire le même effet sur les gens, donc.
Et Nadia, pour ce projet, vous sortez de votre zone de confort classique pour explorer le jazz. Comment vous décririez la différence entre interpréter le répertoire classique et le répertoire jazz?
Je pense que du point de vue rythmique, au fait, on a pas mal plus de liberté. On a plus, c'est certain que ces pièces-là, comme vous allez, quand les gens vont écouter vraiment l'album au complet, toute la partie pour flûte traversière est écrite. Mm-hmm. Donc, ce qui est du point de vue improvisation, c'est vraiment le trio jazz qui amène des couleurs différentes. En concert, les solos sont jamais pareils, évidemment. Tout est différent, mais sauf que toute la partie qui est flûte traversière avec trio jazz, c'est écrit. Donc, c'est plus au niveau, finalement, de rajouter ici et là quelques petites touches personnelles. Mais ce qui a été le plus grand défi pour moi, je pense que c'était plutôt de trouver les bons musiciens pour interpréter cette musique-là. Parce que justement, vu que c'est classique jazz, j'avais besoin quand même des musiciens qui étaient d'une extrême rigorosité pour le côté classique et puis d'une vivacité d'esprit pour l'improvisation d'un autre côté. Donc,
et vous les avez trouvés?
J'ai trouvé des fantastiques musiciens. Oui, Jonathan Turgeon au piano, Dominique Girard à la contrebasse et puis Bernard Rich à la batterie et puis Hugo Larenas à la guitare pour la Picnic Suite.
Est-ce que ça a été compliqué de les trouver, ces musiciens-là?
Ben, écoutez, ce qui a été compliqué dans mon cas, c'est que moi, je viens du milieu classique. Mm-hmm. Donc, trouver des musiciens classiques, il n'y a aucun souci. Puis le milieu classique, le milieu jazz, c'est quand même deux milieux quand même assez
contacts,
je dirais. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis fait que j'ai passé finalement par la harpiste Valérie Milo, qui m'a conseillé Bernard Rich, qui est le drummer. Et puis, à partir de Bernard, ben là, je lui ai demandé de m'aider pour trouver les bons musiciens pour la suite. Donc, c'est comme ça que ça se passe.
Et le coffret contient l'intégrale des œuvres avec flûte de Bowling. Ça représente combien de pièces et combien d'heures de travail?
Oh, écoutez, de musique, je crois que c'est au-dessus de 2h10 de musique. Donc, écoutez, de travail, je pense que ça fait depuis au moins 2022. au moins depuis 2022 que je travaille sur ce projet-là. Enfin, vous pouvez imaginer, c'était des heures et des heures et des heures et des heures de travail. Du point de vue de la flûte, moi, c'est sûr que, comment dire... il y a des solos, c'est pas flûtistique, donc ça rentre pas facilement dans les doigts. La conception de la musique en jazz est très, très, très différente de celle de classique, donc les enchaînements de doigté sont pas les mêmes. Donc, quand même, je dois dire que j'ai travaillé très, très, très fort, surtout pour la deuxième suite, qui est extrêmement virtuose avec Jazzy, avec Espiègle. Donc, c'est énormément d'heures de travail, oui, je dois dire. Et puis, tout ça, sans compter toutes les heures d'enregistrement aussi. On a eu 3 sessions d'enregistrement pour faire les 3 albums, évidemment. Donc, à chaque année, à l'hiver, à ce temps-ci de l'année, on se rencontrait pour enregistrer un nouvel album. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment plaisant.
Beaucoup de travail et ça donne justement un résultat très plaisant. Votre parcours artistique est impressionnant. 10 albums, des tournées internationales, des prix, des nominations. De quoi vous êtes le plus fier, Nadia?
De poursuivre mes rêves, de me réaliser dans cette musique-là, puis de, vous savez, c'est même toutes les bon, j'ai eu une grande carrière avec ma sœur jumelle Dulce Emilia. Par la suite, moi, j'avais un fort sentiment qu'il fallait absolument que j'enregistre Flûte Passion Schubert, le Bach, le Mozart, Flûte Passion Mozart également, et puis là, hommage à Claude Bowling. Je crois que c'est de m'écouter. La plus belle chose, je pense, c'est de m'écouter dans mes élans artistiques, parce que tous ces élans artistiques-là, c'est rattaché un peu à ma vie, évidemment. C'est thérapeutique, c'est de la musique. Moi, la musique me nourrit et j'espère par le fait même que cette musique-là va nourrir les gens. Je crois que c'est de poursuivre mes rêves puis de me réaliser dans tous ces projets-là puis de faire du bien aux gens avec cette musique-là, parce que moi, ça me fait du bien, puis j'espère que ma sensibilité arrive à toucher les gens puis à leur faire vivre de belles émotions et voir la beauté dans le monde en écoutant cette musique-là. On décroche. Quand on joue de la musique, on est comme ailleurs. On n'est plus on est dans le moment présent, mais ailleurs, dans un autre... comme dans un autre monde. Donc, c'est précieux de pouvoir se connecter à cette énergie-là puis à cette énergie-là positive.
Et j'ai vu que vous jouez sur une flûte en or 14 carats.
Oui, oui.
Wow!
Oui, oh, c'est un, comment dire, c'est comme le Stradivarius de la flûte traversière. Hein. C'est un instrument qui est fabuleux, qui répond très, 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 très bien, qui est... Oh mon Dieu, c'est un instrument très précieux. Nos instruments, c'est le prolongement de notre pensée, de notre être, finalement. Donc, c'est certain d'avoir des instruments qui facilitent l'expression de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de qu'est-ce qu'on veut dire, ça aide beaucoup. Des fois, je retourne juste pour m'amuser sur la première flûte que j'ai eue, et puis je fais comme, ouais, OK. C'est certain qu'il y a plus de... C'est ça. C'est des instruments qui nous permettent de mieux s'exprimer, puis...
Mais je savais pas que ça existait, des flûtes en or. Est-ce que le fait que ça soit en or, ça ajoute au son?
Oui. Oui, bon, pour pas faire de jeu de mots, ben oui, le son est beaucoup plus riche.
Oui.
le son est beaucoup plus ample. La projection est beaucoup plus importante. Comme je disais, c'est comme se promener avec une Lada versus avec une Lamborghini.
Ça s'entend.
Oui, ça s'entend, et surtout...
Et ça se vit quand on est flûtiste.
Et c'est surtout ça, ouais. C'est exactement ça. C'est surtout, ça se vit. C'est ça, pour pouvoir tout exprimer, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, toutes les petites finesses, puis tout ça, bon, ça prend un instrument qui est capable de répondre, puis de faire tout ce que j'ai envie de faire, donc c'est...
Et cette flûte-là répond.
C'est pour moi. Oh, oui.
Et pourquoi, justement, vous avez choisi la flûte comme instrument pour vous exprimer musicalement?
Ben, écoutez, à l'âge de 7 ans, ma sœur aînée Pascale était déjà au Conservatoire de musique de Rimouski. Et puis, déjà à 7 ans, moi, j'étais fascinée par cet instrument-là. À chaque fois que ma sœur pratiquait, je me faufilais dans sa chambre pour aller écouter avec les yeux pleins d'émerveillement, cet instrument-là, jusqu'au jour où elle m'a dit, Nadia, est-ce que tu veux que je te montre comment jouer de la flûte traversière? Ah, là,
oh, le
mon
rêve.
Dieu, j'étais tellement heureuse, vous pouvez pas savoir. Donc, j'ai pratiqué pendant un an, puis l'année suivante, à 8 ans, j'ai fait les auditions du conservatoire, puis j'ai été prise. Donc, c'est comme ça que tout a commencé. Moi, c'était comme... Je me suis pas posé de questions à savoir quel instrument je devrais bien choisir. Non, c'était clair que c'était cet instrument-là.
Est-ce que le souffle, c'est la chose la plus importante qu'il faut pour être capable de jouer longtemps, faire des tournées, justement, des concerts?
Ah oui. Le souffle, puis en même temps, le souffle, c'est ce qu'il y a de plus difficile à contrôler. Et en même temps, c'est ce qui me fait le plus de bien. Tu sais, le souffle, on l'utilise en yoga, méditation. C'est comme la base.
C'est la vie.
De la connexion de la vie. Mm. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est le souffle. Donc, pour moi, j'imagine que même à cet âge-là, c'est probablement ce qui m'a intéressée. C'est ce contrôle du souffle. Et puis, avec le souffle, c'est le souffle qui nous amène ailleurs aussi. C'est le souffle qui fait que j'entre dans ma musique, qu'il y a une respiration qui s'installe. Des fois, on me disait, bon, on t'entend respirer. J'ai dit, ben oui, j'espère qu'on m'entend respirer. Parce que si on ne m'entendait pas respirer, il y aurait peut-être un petit problème. Donc, c'est la vie. Donc, avec ce souffle-là, moi, c'est comme si les notes étaient vivantes. Quand les notes sortent de mon instrument, ben, elles sont vivantes parce qu'ils ont, ils ont une âme qui sort. Vous comprenez, tu sais, c'est...
Ah oui.
Ah non, c'est un instrument, mais absolument fabuleux pour ça. Puis en même temps, c'est la même technique que la voix, la technique de respiration, la technique de projection, c'est la même chose que la voix. Donc, si le moindrement... moi, je parle avec mon instrument. C'est toujours ça que j'ai dit depuis que je suis toute jeune. Mm-hmm. J'ai des choses à dire, je parle avec mon instrument. Donc, c'est pour ça que toutes les notes, pour moi, il n'y en a pas une qui est pareille. Toutes sont toutes interreliées les unes entre les autres, autant les silences que la musique, que les notes, parce que dans le silence, il y a toutes les notes. C'est comme c'est comme tout est là. Donc, c'est ça pour moi, c'est l'instrument parfait pour moi pour pouvoir m'exprimer et pour pouvoir dire ce que j'ai à dire.
Et
les gens vont peut-être pas découvrir les mots que j'utilise, mais ils vont les ressentir.
Oui, et vous parlez de respiration. Quand on vous reproche, ou qu'on vous reproche, qu'on constate qu'on vous entend respirer, j'imagine qu'il faut avoir aussi le contrôle, parce que c'est bien de vous entendre respirer, mais il ne faut pas que ça envahisse la musique non plus.
Pas du tout. Ben non, bien sûr. Il faut que ça soit discret, mais il y a des endroits où je suis obligée de respirer plus profondément parce que le phrasé est extrêmement long. Donc, si je veux vraiment me rendre jusqu'au bout, ben, il faut qu'il y ait une détente qui s'installe. Et puis, ça n'arrive pas si souvent, mais des fois, il y a un petit bruit qui peut arriver en même temps.
Est-ce que vous avez des idoles, le flûtiste?
Ah, bien sûr. Bon, c'est certain, comme je parlais tout à l'heure, Jean-Pierre Rampal, c'est le premier qui a sorti la flûte traversière de l'orchestre, parce qu'à l'époque, dans les années 70, on n'entendait jamais une flûte solo. Donc, c'est lui qui a vraiment sorti l'instrument et qui l'a amené sur les scènes accompagné d'un orchestre. Donc, qui a vraiment donné les notes de noblesse finalement à cet instrument-là. Mmh. C'est lui qui a tout ressorti et qui a édité toute la musique pour flûte traversière solo. Donc, c'est...
Je ne sais pas si c'est grâce à lui qu'on s'est tourné à un moment donné vers la flûte traversière. Je pense à Harmonium, à Jethro Tull aussi.
Ah, c'est clair. C'est clair parce que c'est tout dans les mêmes années. C'est dans les années 70 aussi. Donc, c'est là que justement qu'il y a eu une émergence, un intérêt pour cet instrument-là. Donc, par la suite aussi, bon, plusieurs autres flûtistes m'ont inspiré, comme Emmanuel Pahut, évidemment.
Pahut?
Oui, Emmanuel Pahut, exactement. Oui, lui aussi, il a enregistré. Il a une carrière absolument fantastique. Patrick Gallois, qui a total, il a sa sonorité à lui. J'ai étudié avec lui pendant quelques temps. Puis, quel homme extraordinaire, mais qui a une vision de la sonorité, mais qui est complètement différente des autres flûtistes. Donc, ça m'a apporté beaucoup aussi du point de vue de l'interprétation, du point de vue de la liberté d'interprétation de chaque qu'on pouvait se permettre finalement de jouer comme on ressentait, mm-hmm. et non de copier ce que les autres faisaient dans un sens.
Vous avez nommé trois hommes, alors la flûte n'est pas réservée qu'aux femmes.
Non, c'est ça. C'est ceux qui ont fait carrière en flûte, je dois dire. Il y a beaucoup d'hommes. Fait que c'est certain que... Bon, il y a Jasmine Choi aussi, et c'est une femme qui est absolument fabuleuse, une Coréenne aussi.
Et il y a Nadia Labrie.
Ben oui.
Nadia, à quoi va... Oui, en terminant votre agenda pour la fin de 2025 et l'année 2026, là, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous allez faire vivre votre coffret sur la scène?
Oui, tout à fait. Bon, on va commencer avec le 18 décembre pour Noël, justement, à Repentigny, présenté par Aram Musique. On va vous présenter la suite numéro 2 au complet, en plus de quelques belles pièces de Noël pour se mettre dans l'ambiance des fêtes. Et puis, par la suite, au mois de mars, on va aller à Paris. Le 19 avril, on sera à la Pocatière. À la fin juillet, on va être aux îles de la Madeleine, à la Seine, au Havre-Aubert. Donc, on prépare quelques concerts, puis on espère qu'on va pouvoir partager cette musique-là le plus possible avec le plus grand nombre de monde. Évidemment, on y travaille fort.
On vous le souhaite. Alors, oui. Je rappelle le titre du coffret « Flûte passion, hommage à Claude Bowling » de la flûtiste québécoise Nadia Labrie, qui est bien entourée par d'excellents musiciens aussi. On va se laisser avec un extrait du troisième CD pour ceux et celles qui vont se procurer le coffret physique. C'est une pièce de Picnic Suite. Oui. Et j'essaie de traduire en anglais et en français, mais on peut dire suite tout simplement. Et on a choisi la pièce Canon.
Ah, super, parfait.
Au plaisir, Nadia.
Au plaisir, merci, au revoir.
Ça s'écoute très bien, Flûte passion, hommage à Claude Bowling. Et je ne sais pas si ça se voit ou ça se regarde très bien, mais vous êtes sorti au Prospero, Mathieu, pour aller découvrir une pièce particulière.
Oui, c'est le cas de le dire. Je suis allé voir La jeune fille suppliciée sur une étagère. qui est présentée au Prospero jusqu'au 6 décembre. Je rappelle que le Prospero est au 1371 Ontario Est à Montréal. C'est une libre adaptation d'une nouvelle de l'auteur japonais Akira Yoshimura, qui est mis en scène par Cédric Delorme Bouchard, avec sur scène Larissa Corriveau et une très courte présence muette de Jennifer Desbiens. Il existe des spectacles où le temps cesse d'avancer, où l'on ne sait plus très bien si on est en train de voir ou d'être vu.
Mais vous êtes resté perplexe, je comprends bien.
Oui. Ici, c'est la mort elle-même qui parle, une mort calme, lucide, presque bienveillante. Elle raconte ce qui reste d'un corps quand la vie s'en va, les gestes rapides de ceux qui n'ont pas le luxe du chagrin. Sur scène, Larissa Corriveau tient le récit comme si chaque phrase était un fil de vie tenu à rebours. Elle ne joue pas la mort, elle la laisse parler à travers elle. C'est cru et c'est sans détour. Et la salle le ressent immédiatement, le temps est suspendu, les respirations deviennent même parfois prudentes. Cédric Delorme Bouchard, qui est à la mise en scène, crée une atmosphère où le réel s'effrite. C'est ni réel ni surréaliste, c'est autre chose. Et fait important, soyez avertis, parce que le texte évoque la manipulation d'un corps, sa dissection, son démembrement, les gestes de vendre un corps à la science. Il n'y a rien de gratuit dans le spectacle, mais faut être averti. Certaines personnes ont été...
Choqué.
J'ai même eu des gens qui sont sortis de la salle pendant le spectacle.
Alors, ça prend un avertissement. Il n'y en avait pas là, quand vous êtes allé.
Non. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a un calme étrange. C'est le regard d'une adolescente qui observe sa propre disparition, comme on observe un paysage avec une certaine curiosité. Enfin, on ressort du Prospero avec la sensation d'avoir traversé un endroit où la mort n'est pas une fin, mais plutôt où nous en sommes témoins. Et aussi, ça a été mis en scène de façon, j'allais dire, élégante.
Paraît-il que c'est notre collègue Gilbert Lepage qui a vu la pièce et qui, lui, est sorti de là complètement conquis, mais il disait « je proposerais pas cette pièce-là à n'importe qui, mais quelqu'un qui s'intéresse à l'objet théâtral, il semblait dire que c'était parfait à tout point de vue, puis que l'éclairage aussi était important. »
Oui, la mise en scène, la scénographie, Larissa Corriveau est excellente, parce qu'elle porte le texte à elle-même.
Un solo.
Oui, c'est particulier. Allez-y, en fait.
Vous l'avez vécu.
Oui, je l'ai vécu et je le ressens encore. C'est une œuvre audacieuse qui prend le risque de ne pas ménager son public. Et parfois, c'est exactement et précisément ce dont le théâtre a besoin. C'est jusqu'au au 6 décembre, au Prospero, au 1371 rue Ontario-Est.
Même le titre est étrange. Rappelez-le-nous.
La jeune fille suppliciée sur une étagère.
Merci, jeune homme. Va tomber aujourd'hui à certains endroits. Alors, et le froid s'en vient également. C'est la Journée internationale des personnes handicapées. Bon 3 décembre à tous et à toutes. Merci Mathieu d'avoir été là. On se retrouve demain.